Bonjour, nous allons commencer un atelier qui s'intitule Espace public et mixité, qui est organisé par la Caisse des dépôts et consignations et son groupe. Donc très rapidement, la Caisse des dépôts et consignations, si vous, en deux mots, c'est un établissement financier public au service de l'économie et de l'aménagement du territoire. Il a un certain nombre de filiales qui sont des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre dans l'urbanisme. Donc la Caisse des dépôts, elle a construit la France d'hier, les trains, les autoroutes, le TGV, le renouvellement urbain, le logement social. Elle a financé tout ça et elle continue d'évoluer. Et on a souhaité vous faire partager nos réflexions sur l'espace public et les mixités. Donc autour de la table, je vais vous demander de vous présenter les uns et les autres. Donc nous avons Pierre-Marie Chapon,
oui.
Bernard Matijazic et Corinne Henné. Donc si vous voulez bien vous présenter les uns après les autres.
Donc Pierre-Marie Chapon, bonjour à tous. Donc jusqu'au 31 août, j'étais directeur de la recherche d'ICAD, qui est une filiale immobilière donc plus spécialisée dans la promotion au sein du groupe Caisse des dépôts. J'ai rejoint en fait la CET, qui est le premier aménageur de France, puisqu'en fait intervient à travers 280 établissements publics locaux notamment à Bordeaux sur l'aménagement du territoire. Et je suis également référent pour la France, j'en parlerai tout à l'heure, sur le programme Ville et Communauté Amis des Aînés, qui est un programme de l'Organisation Mondiale de la Santé. On en reparlera dans quelques minutes.
Bonjour, Bernard Matijazic, je suis directeur du programme Smart City et d'EGIS. Alors EGIS, d'abord, c'est le premier groupe français d'ingénierie des infrastructures et de la ville. 12 000 salariés, la moitié en France, la moitié internationale, donc une activité très équilibrée. 900 millions de chiffre d'affaires. Et on est également, donc au-delà de l'ingénierie, on est exploitant de services. Notamment, on exploite 2 400 km d'autoroute dans le monde, donc très peu en France. Mais par contre, si vous descendez à Biarritz, l'autoroute A63 est exploitée et maintenue par EGIS. Et nous exploitons 14 aéroports dans le monde. Chypre, Abidjan, Pointe-Noire, Brazzaville, Tahiti, Sao Paulo, Anvers, etc. Donc une activité tournée vers la ville de demain, la ville du futur, une ville durable, une ville intelligente. Et le troisième axe de développement pour EGIS en tant qu'exploitant, on va se positionner comme exploitant, opérateur exploitant de ces intelligences urbaines, c'est-à-dire ces solutions qui vont permettre de mieux partager l'espace public, d'être plus performant dans la mobilité, dans la consommation énergétique, etc.
Donc Corinne Henné, directrice du développement et de la maîtrise d'ouvrage pour Coligny. Coligny, c'est un ESH, un établissement social pour l'habitat, qui travaille sur la totalité de l'Aquitaine. Donc c'est 6 400 logements sur l'Aquitaine. Coligny fait partie d'un groupe un petit peu plus important, donc le groupe SNI, qui est le premier bailleur de France avec 300 000 logements et plus de 4 400 collaborateurs. Et bien sûr, propriété de la Caisse des dépôts.
Donc, je voulais commencer par... comment est-ce qu'on a abordé le sujet ? On s'est dit que l'espace public, c'était un lieu de rencontre, d'échange, de mixité. Hein, c'est important, tout le monde le sait. Mais c'est avec la densification des villes, l'espace public devient rare, cher à aménager. Et donc, comment optimiser et l'optimiser dans une volonté de maintenir la mixité ? Voilà, ça c'est la première approche. Alors, on s'est dit que les mixités, il y avait des mixités générationnelles, sociales, fonctionnelles, d'usage. Donc je voulais interroger Jean-Marie Chapon sur le premier sujet de la mixité générationnelle. Je lisais l'autre jour, il y a quelques jours, un livre de Jean Viard qui s'appelle « La société des modes de vie » et qui nous donne des chiffres assez édifiants. Que finalement, nous vivons de plus en plus long. Hein, on a gagné 25 ans de vie en un siècle, depuis 100 ans. On gagne, 3 heures de vie par jour. Donc notre vie est de plus en plus longue et on passe que 12% à travailler de notre vie. 30% à dormir, 12% à travailler. Donc on passe du temps, si vous voulez, les valeurs du temps de travail se glissent vers les valeurs du temps libre. Comment on organise ce temps libre ? Et notamment dans une vie qui est de plus en plus discontinue. On change de travail, on change de famille, on change d'endroit pour vivre. Et ça bouleverse notre rapport à l'espace et du fait que nous sommes mobiles dans le travail et dans nos modes de vie. Voilà, donc est-ce que Jean-Marie... Pierre-Marie, alors dites-nous, par rapport à cette durée de vie, quelles sont les réflexions en termes d'espace public et quel est l'enjeu de société
L'enjeu de société, je vous rassure, on ne parlera pas que du vieillissement pendant cette table ronde, mais j'avais quand même envie de réagir sur un point d'actualité. On a eu la loi d'adaptation à la société au vieillissement qui commence son travail au Parlement, donc qui est passée mardi à l'Assemblée nationale. Et en fait, la presse n'a parlé que de dépendance. Or, cette loi, c'est tout sauf de la dépendance. C'est une loi qui est justement pour préparer nos territoires à la question du vieillissement, qui n'est ni une maladie, ni quelque chose de catastrophique, qui est juste un fait, simplement préparer les choses en termes de vieillissement. Et donc cette loi a été très mal présentée dans les médias, alors que ça nous implique, en tant qu'urbaniste, de travailler sur les documents d'urbanisme, de travailler sur l'habitat, de travailler sur les transports, et finalement de faire en sorte de se dire, pourquoi, justement, par rapport à cette mixité, il ne faut pas opposer jeunes et vieux, mais plutôt essayer de construire comment est-ce qu'on construit une ville dans laquelle on va pouvoir vieillir sereinement, parce que c'est une forme de développement durable, et côtoyer d'autres générations, se rencontrer quand on a envie de se rencontrer, par moments être plus au calme, etc. Et donc tous ces sujets, vous voyez finalement, là on a quelque chose par rapport à cette loi qui, certes, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, mais qui aurait pu, d'un point de vue médiatique, changer un petit peu ce regard sur le vieillissement. Regardez quand on allume les chaînes d'information continue, à chaque fois qu'on parle de vieillissement, c'est toujours pour vous parler de maltraitance, de vous parler d'Alzheimer ou de vous parler de la mort. Donc il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes sur le vieillissement, et justement dans le cadre d'échanges intergénérationnels et d'échanges à travers les villes. Donc pour revenir un petit peu sur notre sujet directement, la question de la mixité générationnelle doit être vraiment au cœur de nos réflexions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, avec le vieillissement, on a 40% des aînés qui habitent dans des territoires périurbains. Ce sont des gens, en fait, qui ont construit leur maison dans les années 60-70, qui ont vécu. Alors, on a vu les enfants habiter, donc il y a eu toute une thématique par rapport aux enfants. Les enfants, ensuite, sont partis, etc. Et donc, on se retrouve face à ces territoires qui, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ont peu évolué. Alors, on a certains, évidemment, qui ont un petit peu plus de mixité, mais d'autres qui se retrouvent finalement avec une population assez homogène en termes d'âge, alors déjà qui est homogène en termes de population d'un point de vue social. Et donc, comment est-ce qu'on réinvente ce territoire ? Et ça peut être une base de réflexion dans l'aménagement de nos territoires, en se disant, pourquoi ne pas essayer de faire revenir d'imaginer faire revenir un petit peu des jeunes dans ces territoires, de recréer un petit peu de centralité. Et donc, ça peut être un enjeu parmi d'autres, mais qui est intéressant à traiter. Voilà pour introduire un petit peu les choses par rapport à ce sujet.
Bon, très bien. Est-ce que Égis, peut-être allons...
Moi, je pourrais réagir en complément des chiffres précédemment cités. Par rapport à il y a un siècle, le temps disponible... vraiment disponible quand on a fini ses études, donc tout l'apprentissage de la petite école, de la grande école, des études supérieures, plus le temps de travail, on disposait d'à peu près de 15 à 20% de sa vie en temps libre, pour avoir des loisirs, pour partir en vacances, etc., puisqu'il n'y avait pas autant de congés payés il y a un siècle, et la durée de vie était nettement plus courte. Aujourd'hui, si on se projette avec une population urbaine croissante, à une vitesse exponentielle, chaque mois, il y a une ville de plus d'un million d'habitants qui apparaît dans le monde. Avec l'accroissement de la durée de vie, quand on a fini ses études, fait son temps de travail, avec les congés payés, les RTT, on a à peu près la moitié de sa vie en temps disponible. Et ce temps disponible va être un temps urbain. parce que les populations sont de plus en plus urbaines. Alors en Europe, il y a une certaine stabilité, mais dans les pays émergents, que ce soit l'Afrique comme le Nigeria ou les pays d'Asie du Sud-Est, on a une croissance exponentielle des populations urbaines. Donc il va falloir que cette ville occupe ou donne du loisir à 50% du temps de la population. Ça, c'est une nouvelle équation. Et donc la réflexion sur l'espace public, et avec la biennale Agora à Bordeaux, on est sur ces thématiques-là, on va devoir réfléchir à comment bien vivre sa ville et partager sans forcément réinvestir, parce que les capacités des collectivités territoriales sont extrêmement limitées, les dotations de l'État sont diminuées. Donc on va réfléchir à moins financer d'infrastructures nouvelles, mais à optimiser leur utilisation. Ou considérer également, il y a un mouvement fort au niveau urbain, de la place de la voiture. La place de la voiture va diminuer, et donc on va repenser la ville pour davantage de modes doux, alors que ça soit la marche à pied, élargissement des trottoirs, création d'axes pour les vélos, de sites propres pour que les bus ou les tramways soient plus efficaces, etc., etc., d'espace pour des vélos en libre-service, d'espace pour les véhicules électriques et la recharge électrique. Donc il y a un mouvement profond pour repenser l'usage de cet espace public qui était quand même d'abord pensé pour la voiture dans les années 70, pour qu'on se réapproprie, parce qu'on vit en ville, et on vit dans les lettres nobles du mot vivre, on va vivre et profiter de la ville. La ville est un espace de culture, de divertissement, de promenade, on y flâne, on y fait du shopping, on s'y balade, et Bordeaux est un exemple de ce qu'on peut faire en qualité de réaménagement, notamment sur ces quais. Voilà, donc il y a une nouvelle équation à résoudre, plus de personnes qui vont profiter de l'espace urbain, un espace urbain qui a été attribué par les architectes dans les années 70 d'une certaine façon, un zonage aussi urbain qui est assez fort. Il y a des zones commerciales, des zones universitaires, des zones d'emploi, des zones de centre-ville historique commerçant, des cités administratives. On a créé des cités administratives, donc on a zoné la ville. Et donc là, la nouvelle approche urbaine pour tout se réapproprier cet espace urbain et ces sites et ces lieux, c'est à la fois pouvoir y circuler à pied, s'y promener, donc une grosse réflexion, et puis créer du lien entre ces différents espaces, parce qu'il est hors de question de les casser, ça coûterait trop cher et ça serait inefficace. Donc on va créer des liens, et notamment avec les nouvelles technologies, les transports, etc. On va essayer de trouver une façon de se réapproprier différemment la ville. Voilà.
Bon, merci. Je voulais interroger Corinne Aîné. Comment un bailleur social qui part d'une problématique de réhabilitation de logement, dans un projet comme celui de la Benauge, comment est-ce qu'il vient à s'intéresser à la question de l'espace public? Est-ce que vous pouvez nous donner en deux, trois mots, enfin nous dire deux, trois mots déjà du projet de la Benauge dans cette idée-là, c'est-à-dire comment, de la question des réhabilitations, vous en êtes venu à travailler sur, plus largement sur le quartier?
Oui, mais... Exactement, la Benauge, qui est un... C'est dommage, on aurait peut-être pu passer quelques images pour situer le quartier, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il faut lancer, je pense qu'il faut lancer un nouveau fichier. Ouais. Parce que, effectivement, le quartier de la Benauge est un quartier essentiellement social. Donc un quartier important de la ville de Bordeaux, puisque c'est plus de 3000 habitants. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire ce que vous venez de dire, de créer de la mixité d'usage, la mixité en point de vue de la population, qui est quand même très, très variée, puisque nous avons bien sûr des familles, mais aussi une proportion très importante de familles monoparentales et de personnes seules, donc avec des personnes âgées. Hein, donc ça rejoint, je dirais, les deux problématiques. Et donc notre enjeu, comme je vais vous le présenter, c'est de faire que ce quartier qui était monoproduit, hein, on parlait de la cité administrative, la cité universitaire et les quartiers universitaires, ben là c'est un quartier social. Le but, c'est que... Vous pouvez revenir à la première. Voilà. je vais la prendre, si ça ne vous dérange pas. Le but, c'est de faire ce quartier autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la situation, l'implantation du quartier de la Benoche, donc c'est un quartier qui est quand même relativement grand, hein, donc c'est plus de 20 hectares, composé de deux cités, situé sur la rive droite. Et donc, d'un côté, je dirais, il y a la cité, ce qu'on appelle la cité Pinson, qui appartient à Aquitanis, qui est un autre bailleur. Et entourée de jaune, la cité de Coligny, la cité blanche. Donc c'est un quartier très intéressant du fait qu'elle est située au croisement de boulevards importants, le boulevard Joliot-Curie et le boulevard Entre-deux-Mers, et qu'il sera drainé dans les années à venir par deux axes de TCSP, voire de tram, on parle d'un tram. Donc c'est quand même un endroit très stratégique où on pourra appliquer toutes les recettes de la mixité pour en faire une ville de demain, enfin un quartier de demain ouvert au reste de la ville.
Très bien, donc le déclencheur, là, ce qui va vraiment booster le projet, c'est bien l'arrivée du tram, hein, l'ouverture du quartier sur la ville, et ensuite qui va permettre d'aérer le quartier, hein, rapidement.
Oui, tout à fait. Le déclencheur, c'est effectivement l'arrivée du TCSP sur le quartier. Et ça a obligé, je dirais, tous les intervenants à s'interroger sur le devenir de ce quartier, hein, à la fois la ville, la communauté urbaine, mais aussi les deux bailleurs. Hein, comment on peut travailler ensemble? Parce que notre travail, effectivement, c'est de réhabiliter, d'améliorer le confort des habitants qui habitent sur la cité blanche, mais c'est aussi accompagner ce renouveau qui sera inéluctable avec justement ce TCSP. Donc pour nous, c'est un programme important de réhabilitation puisque tous les logements seront réhabilités. Les besoins sont différents, donc on aura des traitements différents, mais c'est quand même plus de 500 logements qui seront, enfin 400 logements qui seront réhabilités. C'est des nouveaux logements qui seront construits, hein, et c'est en fait aménager l'espace. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc pour Coligny, c'est une enveloppe d'environ 35 millions d'euros. Ça pourrait être plus si dans un mois, l'ANRU nous faisait la faveur d'inscrire la Benoche dans ses tablettes.
Monsieur Matijazik, pouvez-vous nous parler de mobilité? On a vu que c'était que la question de la mobilité des flux est essentielle, hein, pour faire la ville, pour gérer l'espace public, pour bien le vivre. Est-ce que vous pouvez nous parler de
la rue
partagée
ou la rue intelligente? Peut-être passer quelques schémas d'illustration. On va passer d'une réflexion où on a découpé la ville, je dirais, en lanières. Donc il y a, par exemple, sur cet axe, le terre-plein central qui est dédié au tramway, de la circulation à gauche, à droite, et de temps en temps, il y a des loges pour tourner ou pour stationner. Donc on a découpé la ville, bien souvent, dans la rue, dans l'espace public, en lanières, avec souvent très peu de place pour le piéton, et en essayant d'aménager une lanière pour le vélo, une lanière pour le tramway ou un bus en site propre, un TCSP, pour ceux qui ne connaissaient pas l'acronyme, c'est les bus qui ont un couloir dédié. Et donc on passe de la figure d'en haut à vraiment un découpage en lanière à un espace sur lequel on va essayer d'être un peu plus dans le partage de l'usage, et donc dans une souplesse pour l'allocation de cet espace. Parce qu'aux différentes heures de la journée, on n'aura pas le même besoin de circuler, de stationner, de se promener, que ce soit dans l'heure de la journée ou dans la semaine, ou dans le mois, dans l'année. Donc là, on peut avoir des illustrations, par exemple, où on peut attribuer une partie de la voirie pour une circulation dans les deux sens, avec un jalonnement lumineux que vous voyez en jaune. Une autre illustration, c'est par rapport à des heures de la journée, notamment aux heures de bureau, entrée et sortie bureau, on va avoir une circulation en sens unique, et avoir une ligne de bus en site propre, dans lequel personne d'autre que le bus pourra circuler, pour garantir ses temps de parcours, pour être performant, pour faire en sorte d'acheter moins de bus et de payer moins de chauffeurs par rapport aux heures de pointe. Ça aussi, c'est important que, non seulement pour les usagers, il y a une performance sur la ligne de bus, mais également par rapport aux contribuables, ça évite d'avoir des équipes, des suréquipements pour gérer les heures de pointe. Donc on peut aménager la voirie dans ce sens-là. On peut encore, sur toujours ce même exemple, par rapport à des heures de la journée, par exemple le samedi après-midi, zone commerçante, on va attribuer une de ces voies au stationnement pour que les commerçants puissent avoir des clients qui viennent stationner devant chez eux, parce que c'est toujours bien pour, quand on achète un costume, de ne pas porter le cintre pendant un kilomètre jusqu'au tramway et se faire mal au bras. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des zones de stationnement ou de gestion de la livraison sur, mettons, entre 5h du matin et 9h du matin, interdiction à la circulation, c'est réservé au stationnement. Là, on va augmenter la capacité de la terrasse pour profiter de la ville. Ça, on va être sur le temps estival. On profite de la ville. Le cafetier va l'autorisation d'aménager la terrasse. Et donc, on va avoir une zone de terrasse augmentée avec un bus en site propre. Donc, interdiction de la circulation et au stationnement. Là, on augmente la capacité du parvis. Voilà donc comment, à partir de cette illustration, hein, on peut travailler, on peut travailler à considérer que cet espace urbain, une fois qu'il est construit, on va le réattribuer, on va l'allouer de façon dynamique par rapport à ce qu'on veut, au rythme de vie que l'on veut y voir se dérouler, s'épanouir. Et donc, on appelle ça intelligent parce que c'est à partir de technologies, il y a de la réglementation, donc des arrêtés municipaux, mais après des équipements de vidéo pour sécuriser, hein, la sécurité est très importante, pour indiquer du jalonnement dynamique, de l'affichage dynamique. Et donc on va avoir cet espace partagé, cet espace public. Et l'ambition de Bordeaux aujourd'hui, c'est d'organiser le congrès mondial des transports intelligents en 2015. Et donc on réfléchit activement à pouvoir proposer un démonstrateur de ce que c'est cette gestion de l'espace dynamique à Bordeaux dans le cadre du congrès mondial transport intelligent que Bordeaux accueillera donc en octobre 2015. Voilà. Donc c'est une réflexion très très en écho, qui fait écho aux réflexions des urbanistes, des aménageurs, et par rapport au mode de vie à l'échelle d'un quartier de logement, d'un quartier de commerce. Eh bien, on va essayer d'adapter la voirie et l'espace public au rythme du quartier, pour que peut-être le dimanche, quand il y a des jours de marché, il n'y ait plus de voitures, il y ait des piétons, des vélos, éventuellement des transports en commun, et que quand on est sur les horaires de bureau, eh bien là, on retourne à l'efficacité, etc. Voilà. Donc c'est accompagner l'espace public grâce au numérique, grâce à ces nouvelles possibilités qu'ouvrent les technologies, à des mixités d'usage, des mixités fonctionnelles, et avoir une politique urbaine, et avoir une politique tout court. Hein, c'est l'élu peut décider d'une certaine politique dans un quartier en concertation avec la population. Voilà.
Très bien, moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on passe de... Comment on utilise le temps pour réallouer l'espace public, qui se transforme en fonction du temps et du tempo de la journée. Mais pour qui ça sert, tout ça? Et j'ai envie de vous faire parler, Pierre-Marie Chapon, de l'aménagement urbain aussi pour les personnes âgées, par exemple.
Oui, alors on va y venir, mais en fait, pour faire le lien, finalement, là, on voit la partie mobilité. Penser l'aménagement de demain, penser à travailler sur les documents d'urbanisme de demain, c'est concevoir la ville de demain, c'est intégrer cette question des mobilités, mais c'est aussi penser l'ensemble. Finalement, ça s'intègre, c'est un volet qui s'intègre et qui doit d'ailleurs s'intégrer pour fonctionner. Donc toutes ces discussions, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose qui est passionnant mais qui est extrêmement complexe, puisqu'il faut aussi que le lien avec les autres politiques ait du sens, notamment je pense par exemple aux politiques commerciales, je pense par exemple aux politiques de l'habitat, donc la manière dont les choses vont s'organiser les unes avec les autres. Et c'est ça, penser à la ville de demain. Quand tout à l'heure je vous donnais l'exemple de ces lotissements construits dans les années 60-70, on était sur un mono-usage et on n'avait pas pensé comment les choses allaient évoluer 10, 15, 20, 30 ans après. Donc, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est à la fois de repenser donc, ces territoires, mais parmi d'autres, hein, on parle aussi du centre-ville, on peut parler de tout type de territoire, mais c'est, quand on va construire de nouveaux quartiers, s'intégrer ces questions en partant à la fois de la partie de l'habitat. Donc, par exemple, avec ICAD, c'est tout le projet Biome qui a été développé. Donc, Biome, je crois qu'il va y avoir des projets qui vont être lancés sur Bordeaux prochainement. C'est de l'habitat où, en fait, on a deux entrées séparées. Donc, une entrée... En fait, l'appartement, vous avez deux pièces plus une pièce. Et, en fait, cette pièce... Elle va servir, par exemple, pour accueillir les enfants quand ils sont un petit peu plus grands, comme ça ils sont un petit peu plus indépendants. Ça peut être devenir après le bureau, etc. Et donc toutes ces évolutions que nous, on a pu, à notre échelle, en tant que promoteur immobilier, concevoir, ça va s'intégrer dans un quartier qui lui-même, dans un immeuble qui va devoir aussi peut-être évoluer un jour, et puis dans un quartier qui va lui aussi évoluer. C'est-à-dire que les équipements qu'on va concevoir, si par exemple on va construire une école, peut-être que demain cette école, comme le quartier lui aussi aura évolué, peut-être qu'il faudra que l'école soit plus grande, plus petite, et du coup peut-être que certaines pièces vont devenir vous voyez, de manière un petit peu vous allez avoir certaines pièces qui vont pouvoir avoir d'autres usages. Et donc, de concevoir comment les usages vont pouvoir se construire les uns avec les autres, c'est ça aujourd'hui l'enjeu qu'on a. Donc, pour venir sur la question du vieillissement, le vieillissement ne doit surtout pas être perçu comme une politique à mener. Pour moi, je ne vois pas, là, par exemple, j'ai quelques soucis avec la silver economy, par exemple, parce que pour moi, il n'y a pas un marché du vieillissement. Il y a plusieurs profils, et il faut qu'on réponde à ces différents profils et qu'on ait une vision un petit peu transversale. Donc, l'idée, c'est de se dire, prendre en compte les questions du vieillissement, c'est quelque chose qui est important. Prendre en compte les questions d'autres populations, c'est également très important. Et c'est par rapport, en fait, finalement, à ce mix, par rapport à ces échanges, par rapport à des groupes de travail, d'ailleurs, qui peuvent être menés, des groupes de discussion entre ces différentes générations, qu'on va pouvoir bâtir quelque chose avec, effectivement, ce curseur qu'on va pouvoir faire évoluer en fonction, à la fois dans la manière dont est conçu le projet, mais également dans le quotidien. Je pense notamment, par exemple, à l'aménagement d'un parc public. Le parc public, il a besoin à la fois d'avoir des lieux où on va se rencontrer, on va pouvoir échanger. Et puis, par exemple, on a des personnes âgées dans ces groupes de discussion qui nous disent nous, on aimerait bien aussi, quand les écoles, en fait, sortent, nous, on se retrouve, on est complètement paniqués parce qu'on a plein d'enfants, etc. Donc, nous, on se voudrait des endroits un petit peu plus calmes. Et donc, c'est aussi concevoir peut-être que certaines parties du parc sont un petit peu plus calmes, sont éclairées différemment, sont organisés un petit peu différemment, ou différents aussi par rapport à différentes temporalités, donc par rapport à différents moments de la journée. Donc c'est tous ces éléments qui peuvent paraître un petit peu complexes, un petit peu théoriques, la manière dont ils sont présentés, mais qui sont extrêmement importantes, parce que c'est ce qui fera finalement la simplicité de se dire je suis bien dans ce parc. Simplement, vous ne saurez pas pourquoi, mais tout simplement parce que ça correspond au moment où vous êtes, par rapport à ce que vous faites, ça correspondra à ce que vous êtes au moment précis.
Corinne, est-ce que vous pouvez nous dire un peu du point de vue d'un bailleur social, comment est-ce qu'on organise, on essaye d'introduire de la mixité fonctionnelle, d'usage dans un projet comme la Benoge ?
Là aussi, si on pouvait repasser sur... Pour intégrer de la mixité d'usage, il faut connaître les usages, déjà. Hein, savoir un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, se pencher sur le quartier. Si vous avez là... Parce que je voulais vous montrer un exemple, une constatation, en fait. Hein. On va attendre que ça arrive. Donc, c'est le but, c'est déjà donc, de connaître les usages. Je vais vous présenter un exemple type. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on, avant de parler de comment on fait cette mixité, c'était pour vous montrer un petit peu comment est fait le quartier de la Cité Blanche et un comparatif avec la cité d'à côté, la cité Pinson. Comme ça, vous comprendrez tout de suite comment on peut arriver à faire une mixité aujourd'hui. Alors, ça marche. Je ne dois pas le tenir du bon côté. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, c'est bon. Je touche plus. Je touche plus. Donc, d'un côté, vous avez donc la cité Pinson qui se déploie autour d'un square magnifique, le square Pinson, très végétal, une densité très faible, hein, puisqu'on n'a que 30 logements à l'hectare. Et à côté, la cité Blanche, donc la cité de Coligny, qui est, je dirais, tout l'inverse, très, très minérale, avec une densité très, très importante, avec 155 logements à l'hectare. Pas facile de faire les deux à la fois, mais bon, on va y arriver. Ah bah ça marche plus. Vers le PC, mais il y a beaucoup de monde. Non, ça marche pas non plus. Je suis désolée. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment vraiment vivre ces deux quartiers. Ce qui manque au quartier de la Cité Blanche pour avoir une mixité d'usage, je dirais, bien meilleure. Ah, voilà. Donc, d'un côté, toujours la cité d'Aquitanis avec donc, le square au milieu, donc, qui est un élément fort. Tout autour des logements, des équipements publics. On a une salle de sport, on a une école. On a des bâtiments relativement aérés, des entrées bien marquées. Donc, un quartier relativement ouvert, avec des continuités. Donc, un quartier où règne la mixité. Je ne parle pas de mixité sociale, de mixité fonctionnelle. Et à côté, qui touche, hein, puisque tout ça, c'est le quartier de la Benoge, on a la Cité Blanche, avec un îlot où on tourne en rond, coincé entre la voie de chemin de fer et le boulevard Joliot-Curie. Et puis, une barrière qui est créée par un grand bâtiment qui doit faire plusieurs dizaines de mètres de long, là, ce qu'on appelle la bardée, 160 logements, 11 étages. Donc, on imagine bien comment ce quartier peut vivre vraiment sur lui-même et pas du tout être tourné vers l'extérieur. Hormis les habitants de ce quartier, personne ne rentre dans ce quartier. Donc j'en viens à la question, c'est comment on organise cette mixité fonctionnelle. Ben justement, c'est en ouvrant déjà le quartier, mais c'est en créant une quotidienneté, un endroit où les gens vont se croiser quotidiennement, que on arrivera à faire cette mixité fonctionnelle. Alors comment on le fait ? Alors sur l'autre cité, je vais pas dire que c'est parfait, loin de là, mais déjà c'est mieux. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est d'un côté un quartier très fluide avec des ouvertures, de l'autre côté un quartier fermé sur lui-même. Donc demain, l'idée, c'est on peut rien faire contre la voie de chemin de fer. Donc c'est déjà d'ouvrir le quartier sur le reste de la ville grâce donc au transport urbain, mais aussi casser cette grande barre qui va ouvrir et donc créer un élément central. Ça peut être une place agrémentée d'espace public. Il est prévu, par exemple, une médiathèque. Il y a une maison du projet. Donc, créer une zone où les usages seront différents, où la mobilité sera différente. On va se rendre à l'école, on va se rendre, prendre son bus ou son tram. On va aller lire ensemble des livres à la médiathèque. Donc, voilà, il faut inventer une quotidienneté partagée. On peut imaginer faire une place centrale qui est sur le domaine public, aménagée par la ville. Donc voilà, le but c'est ça, c'est de créer des flux, avoir envie, le but c'est avoir envie d'aller, de se rencontrer, de se croiser. Donc ça c'est la mixité fonctionnelle.
Alors, vous avez évoqué là, rapidement les voitures. Et moi, j'aimerais. Il y a des idées intéressantes qui font jour hein, sur le stationnement dans les cités, dans les résidences. Vous allez faire, vous me l'aviez dit un petit peu avant, hein, du stationnement vous allez déplacer des stationnements et peut-être faire du stationnement mutualisé. Aegis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le stationnement mutualisé dans ce type de résidence et jusqu'où on pourrait aller ?
En fait, on se rend compte que le stationnement, aujourd'hui, est le parent pauvre de la mobilité. C'est quelque chose que l'on ne gère pas. On met la gestion de parking relais dans une délégation de services publics pour les tramways. On délègue à des grands groupes l'exploitation des parkings en ouvrage. Et il n'y a pas de cohérence même de tarifs entre la voirie et l'ouvrage en enterré. C'est-à-dire qu'il est plus économique de stationner en voirie que dans un parking enterré. Et on se rend bien compte que ce n'est pas très performant, ça, pour la circulation, ni pour l'attractivité des commerces, etc. etc. Donc, il n'y a pas de réflexion donc, forte sur le stationnement. Alors, à l'échelle d'un éco-quartier, où on va essayer pas de réinventer, mais de pouvoir mettre en œuvre une autre façon de vivre, avec plus d'espaces paysagers, d'espaces publics mutualisés, des aires de détente, de promenade, avec donc moins d'espace occupé, monopolisé en surface par la voiture. Là, on va essayer de concevoir le parking, qui n'est pas forcément enfoncé sous terre, parce qu'en fait, ça coûte très cher de creuser. On va, par exemple, à partir d'un parking en silo, avec un parking à étage, on va en faire un lieu de service, mais une sorte de centralité de la mobilité. C'est-à-dire que ce parking va pouvoir recevoir, par exemple, derrière de la logistique. Avec un petit quai, on va pouvoir décharger des colis, du courrier, pour les entreprises et pour les habitants. Ça permet d'éviter que le camion tourne dans tout le quartier. On va optimiser ce qu'on appelle le dernier kilomètre dans la logistique. Et ce dernier kilomètre, on va le faire aussi peut-être avec des associations, puisqu'il y a un modèle économique de moins tourner avec le camion de livraison. On va pouvoir, à travers une association de l'économie sociale et solidaire, pour livrer ce dernier kilomètre avec un triporteur, un vélo ou un mode plus doux, et créer un emploi de réinsertion pour quelqu'un qui a perdu un emploi, qui a du mal à revenir dans la vie active, etc., pour lui donner une activité. Donc là, ce lieu, au-delà de l'espace de logistique, on peut y mettre aussi un espace de télétravail. Parce que ça, les modes de travail changent aussi. Certaines professions autorisent à ne pas aller au travail, au bureau, au siège, tous les jours. Et donc, on va pouvoir travailler une journée, deux journées dans la semaine, dans ce lieu, à proximité. On y va à pied ou en vélo, dans ce lieu. On appelle ça un tiers-lieu, parce que ce n'est pas tout à fait le bureau. C'est pas du tout la maison. C'est un espace de bureau. On a toutes les facilités, toutes les commodités du bureau, mais dans un autre cadre, avec un espace aménagé d'une façon considérablement différente d'un bureau classique avec une porte, etc. Ce sont des espaces où il y a des fauteuils, des espaces de lecture, des snacks plutôt que des restaurants d'entreprise, etc. Donc on va créer un espace de télétravail pour que cette population-là n'ait pas à traverser tout Bordeaux pour aller travailler tous les jours. Et donc ça fait moins de gens sur la rocade, etc. On va y mettre aussi des espaces de renseignement, comme on disait, des lieux de vie, de renseignement sur la mobilité, une agence de vélo pour acheter des vélos d'occasion, faire réparer son vélo. On va y mettre des commerces de proximité, un dépôt pour le pressing ou un dépôt de pain, pour faire en sorte que ce lieu, qui était a priori sans beaucoup de valeur ajoutée parce qu'on est parqué des voitures, soit un lieu d'intermodalité. On appelle ça aussi le hub, ça joue un point de passage. J'y vais à pied, je continue à vélo, en vélo libre-service ou je prends le tramway. Donc ça soit un élément, une centralité dans la mobilité. Et donc on va faire de ce lieu pauvre, qui est un parking, un lieu de service, un lieu de vie, en y mettant autre chose. Et ce lieu, on pourra même y faire un lieu communautaire, c'est-à-dire cet espace de télétravail dont je parlais, de télécentre. On va pouvoir l'aménager aussi, le penser, pour que les associations se l'approprient le soir, optimisation de cet espace public. On ne va pas faire que dans la journée y travailler avec son ordinateur, on va pouvoir le confier, on peut faire des conseils de quartier. Et puis s'il y a des entreprises performantes dans le quartier, dans le multimédia, dans les jeux vidéo ou dans d'autres activités, on peut en faire même un showroom qu'on loue. Et donc il y a un modèle économique à ces lieux qui sont inventés parce que pour accueillir et faire vivre la population locale, qu'elle soit résidente ou qu'elle y travaille.
Oui, je voulais juste réagir toujours sur la mobilité, mais complètement autre chose. On est sur Bordeaux 2030. Donc si on se projette en 2030, je pense que nos moyens de transporter vont complètement être révolutionnés, vont être révolutionnés par quelque chose qui existe déjà. Donc je suis pas du tout dans la science-fiction quand je vous le dis. C'est des véhicules en fait qui sont sans chauffeur, c'est-à-dire qui sont complètement autonomes. Ça règle une grande partie du stationnement. Ça règle une grande partie de la non-utilisation des véhicules, parce que vous savez qu'on utilise notre véhicule en fait une portion infime, 2%. Donc vous voyez, on a encore de quoi faire, et surtout des véhicules qui vont aller se recharger par eux-mêmes, qui vont ensuite repartir et faire différents types de courses. Alors ça peut peut-être pas faire plaisir à toutes les professions, donc il faut quand même être très raisonnable et se dire évidemment que ces choses vont être intéressantes. Mais moi qui m'intéresse par exemple, comme vous le savez, à la question du vieillissement, ce type de transport va permettre, je pense, à des gens qui sortaient peut-être plus forcément de chez eux, de pouvoir ressortir de chez eux, on va pouvoir imaginer du partage de ces véhicules, et je pense que des modèles économiques vont complètement être révolutionnés par rapport à des expérimentations, par rapport à ces modèles, en sachant qu'on a des constructeurs américains, mais on a aussi un constructeur français, et pour avoir pu tester ce type de véhicule, c'est assez bluffant. Quand vous êtes dans une rue très commerçante et que le véhicule est complètement autonome, vous n'avez pas de chauffeur à distance, vous dites on a peut-être quelque chose de vraiment intéressant. Donc comme on se projette en 2030, vous voyez que d'ici 2030, tout ce qu'on est en train de dire, peut-être que ce sera complètement différent, mais c'est ça qui est riche, et c'est ça qui permet de se projeter dans l'avenir.
Un complément au-delà du véhicule en autonomie de conduite, dont un des premiers véhicules dans le monde a été développé en France par l'INRIA dans les Yvelines, bien avant la Google Car. Mais bon, on n'est pas toujours les plus à même de bien communiquer sur ces sujets-là. Il y a une réflexion vraiment sur l'accessibilité de la propriété. Et quand on considère le coût d'un parking enterré, ça augmente considérablement le coût d'un appartement. Alors il y a une réflexion des promoteurs actuellement pour pouvoir proposer au syndic de copropriété ou à l'office qui gère le logement social, au bailleur social, un partage de flotte de véhicules. Plutôt que chacun sa voiture, il utilise à 2% de sa vie, hein, parce qu'en fait, une voiture ne roule de 2 à 4% maximum de sa vie. On va proposer moins de parking en construction, et en service additionnel, donc un prix d'accès à l'appartement plus bas, mais en échange des services, donc des charges peut-être un peu plus hautes, mais au lieu d'acheter sa propre voiture, partager des flottes. Et là, on va intégrer non seulement, donc dans la mixité, on va intégrer non seulement la copropriété des lieux communs, des parties communes, la copropriété d'une flotte de véhicules, qui soit en autonomie de conduite ou électrique, et le bâtiment de la copropriété va également, grâce à ces panneaux photovoltaïques ou d'autres technologies, alimenter, si ce sont des voitures électriques, ces véhicules. Donc il y a une intégration aussi, une mixité sur l'habitat et sur la mobilité, avec la recherche faite par le bâtiment que l'on habite, pour pouvoir rouler plus propre à l'échelle de son quartier et avec moins de bruit sur véhicule électrique. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà en pilote depuis 2 ans sur le quartier de Lyon-Confluence, qui est un éco-quartier. Ça arrive avec des promoteurs comme ICAD, dans certains groupes, je pense que CENI regarde ça avec intérêt aussi à Lyon, et je pense que Bordeaux verra ses premières expérimentations dans très peu de temps. Je pense avoir vu ça dans la presse. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de considérer cet espace public, ce partage d'usage. Et on va partager donc des parties communes d'ascenseurs, couloirs, mais également des services de mobilité, pas forcément pour aller partir en vacances, mais pour le quotidien, pour aller à la station de tramway la plus rapide, aller faire une course un peu encombrante. Voilà.
Tout ce que vous venez de dire me fait penser qu'effectivement, dans un quartier comme sur lequel nous étudions à la Benoge, comme je l'ai dit en préambule, c'est un quartier qui aujourd'hui est un quartier essentiellement social, qui demain, on n'a pas parlé de mixité sociale, mais quand même l'objectif, c'est de rendre ce quartier moins social, hein, puisque le but, c'est de descendre à peu près sur notre quartier à nous, hein, le quartier de Coligny à 60%. aujourd'hui où on est à 100%. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la voiture est un élément important. Hein. Donc, quand on nous demande de construire, il faut faire au moins une place par logement. On voit bien que les personnes qui habitent chez nous n'ont pas toujours les moyens d'avoir une voiture. Donc, on a souvent des voitures, surtout des parkings, qui nous coûtent très cher, hein, je confirme.
Excusez-moi pour le fond. On se rend compte aussi qu'au-delà du coût de construction du parking sous un immeuble, le coût de possession d'un véhicule est entre 5 et 7 000 euros même. Donc quand on l'assure, quand on le renouvelle et quand on en entretient et qu'on met du carburant. Donc là, on se rend compte qu'on a une enveloppe à dépenser qui est la même, quel que soit son pouvoir d'achat. Alors naturellement, on roule en véhicule d'occasion, mais il y a plus de maintenance sur des véhicules d'occasion quand on est dans un logement social ou qu'on a des petits revenus. Mais donc on se rend compte qu'il y a aussi une dimension sociale, non seulement sur le logement, mais à traiter la mobilité de façon un petit peu intégrée.
Oui, donc c'est tout à fait ça. Donc la voiture, ça coûte très cher, c'est très peu utilisé, hein, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ça coûte aussi très cher aux promoteurs, aux bailleurs, hein, enfin aux constructeurs. Donc l'idée, c'est déjà toutes les places de parking que le bailleur peut faire, c'est de l'ouvrir. Là, je sais qu'il y a une start-up sur Bordeaux qui réfléchit à utiliser ça s'appelle Parking Facile, avec qui on travaille, qui essaye d'utiliser via les smartphones. Hein, moi, je ne dirais pas exactement la technologie, ce que je ne connais pas, mais qui permettra de savoir qu'il y a des places de parking dans une copropriété chez un bailleur. Donc, ça permettra d'utiliser beaucoup mieux ces places de parking. Et là où je veux en venir, c'est que de partager la voiture aussi permettra à chacun d'avoir une voiture à moindre coût. Donc, c'est quand même le futur d'un quartier. C'est avoir moins de voitures et mieux utiliser, en fait.
On voit, en fait, à travers toutes ces expériences, il y a moins de frontières entre l'espace public et privé. Hein, il y a des ponts qui se font. Hein, comment c'est intéressant, hein, ces expérimentations actuelles. L'idée déjà que les bailleurs sociaux ouvrent leur parking à toute la population, hein, et que les places de parking puissent être optimisées et que aussi la facture du parking pour le locataire puisse être diminuée. Et à contrario, que le locataire aussi puisse éventuellement bénéficier d'autopartage. Enfin, on peut. Voilà. Donc, moi, je trouve que on voit que finalement, on passait. Les frontières entre l'espace public et l'espace privé sont en train de s'estomper. Il y a des liens qui se font, des optimisations de part et d'autre. En fait, des expérimentations, là on a parlé du futur, qui se font jour, et je trouve que ça renvoie un peu à des changements de. On voit que les collectivités locales aussi évoluent beaucoup, évoluent sur ce plan-là, hein, et ont des approches de plus en plus ouvertes et participatives. Est-ce que, Jean-Marie Chapon, est-ce que vous pouvez
Pierre-Marie.
Est-ce que vous pouvez parler un peu de la démarche que vous avez avec les collectivités locales sur votre domaine ?
Je voulais quand même, tant qu'être à Bordeaux, vous donner un scoop pour Bordeaux. Donc, puisque vous allez, Bordeaux va intégrer très prochainement la démarche Ville Amis des Aînés, donc de l'Organisation Mondiale de la Santé. Et donc vous aurez justement, par rapport à cette démarche, donc aujourd'hui on a une trentaine de villes en France qui sont rentrées dans cette démarche. L'idée, c'est de travailler ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'établir, de faire une enquête urbaine, donc avec différentes générations, différentes personnes, à la fois des citoyens, des gens qui y travaillent, etc., pour essayer justement d'imaginer une ville qui soit finalement utile et positif par rapport à nos aînés, mais finalement par rapport aux aînés, soit également positif à l'ensemble des âges. Donc quelque part, c'est faire une ville amie des âges. Et c'est une démarche qui est fortement soutenue aujourd'hui par la ville de Bordeaux, qui je pense fera même des petits parmi les communes environnantes, parce que je sens aujourd'hui commencer à venir. Et l'idée, c'est d'essayer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir cette approche transversale, de casser complètement cette image, de se dire le vieillissement, c'est l'élu aux personnes âgées, point barre. Non, ça concerne l'ensemble des élus, ça concerne l'ensemble des techniciens, ça nous concerne tous. Et donc, je voulais saluer, tant qu'elle est à Bordeaux, cette entrée imminente officiellement, mais de fait, je sais que la ville est déjà bien engagée pour travailler auprès de l'Organisation mondiale de la santé sur ce sujet. Voilà.
On a 5 minutes. Est-ce que très rapidement... oui, peut-être des questions éventuellement, effectivement, 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, bonjour. Je voulais savoir si la densité urbaine, tout à l'heure vous avez parlé de densité urbaine, madame, n'était pas un obstacle à la mixité d'utilisation, la densité urbaine ancienne version, hein, je ne parle pas de quartier Ginko ou autre, mais dans les anciennes cités, est-ce qu'on peut créer de la mixité sans casser, sans démolir ? Et ma deuxième question, plutôt pour M. Degis, concerne toujours ces grands ensembles urbains. Est-ce que pour faire tout ce développement que vous avez évoqué, il n'y a pas besoin de mixité sociale ? Je pense que si on parle actuellement dans les quartiers plus ou moins sociaux, les gens sont majoritairement ouvriers, donc ont besoin de leur voiture. Donc le partage de véhicules, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de mixité sociale, du télétravail pour des ouvriers, ça ne marche pas forcément très très bien.
Je vais peut-être répondre en premier. Déjà, la mixité, un quartier social, ce n'est pas uniquement des ouvriers. Hein. C'est des ouvriers, mais c'est aussi des personnes âgées. Hein. C'est une femme seule avec des enfants, hein, donc qui n'ont pas forcément une voiture. C'est ce qu'on constate. Quand on visite le quartier de la Benoge, on a l'impression d'avoir énormément de voitures, et c'est aussi ça qui crée cette impression un petit peu de fouillis, parce qu'il n'y a pas eu à l'époque de construction de parking. On faisait pas comme on fait aujourd'hui, mettre les voitures sous les bâtiments et cacher les voitures. Donc, donc je vais juste finir de répondre à la question. On va finir, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est quand la première question, c'était est-ce qu'on peut faire la mixité sans casser ? Oui, bien sûr, on pourrait faire la mixité, mais pas à la Benoge. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein, c'est que le quartier de Coligny, c'est un quartier très fermé qui est sur lui-même, hein, la Cité Blanche. Et donc, si on ne casse pas cette immense barre que je disais, pour ceux qui connaissent, vous la connaissez peut-être, on ne pourra pas ouvrir ce quartier vers le reste déjà, vers la Cité Pinson, et on n'aura pas gagné, il n'y aura pas du tout de mixité fonctionnelle. Au contraire, c'est à cet endroit-là, construire des nouveaux bâtiments, mixité sociale, et créer un espace où les gens pourront se croiser, pourront savoir se voir, se rencontrer, de toute classe sociale.
Donc vous avez naturellement mis le doigt sur un sujet très important. L'intéressant dans la ville, c'est que l'architecte avec l'urbaniste, avec le paysagiste, avec l'ingénieur qui amène les nouvelles technologies. Donc vous avez tout à fait raison, la mixité sociale est une dimension, mais qui n'est pas du ressort de l'ingénieuriste que je suis. Et donc c'est ça qui est intéressant de pouvoir travailler sur cette ville de demain, c'est de travailler avec une multiplicité de métiers et surtout les nouvelles méthodes de conception et d'évolution de ces quartiers, donc des réhabilitations, se fait aussi avec la population et les élus. Donc sur de la co-conception, de la coproduction de feuilles de route. Donc c'est des nouvelles méthodes de travail. On ne développera pas aujourd'hui parce que là, on va bientôt être chassé. Mais naturellement, vous avez mis le doigt sur un sujet qui est important, la mixité sociale. Et elle est d'autant plus facile qu'on construit des quartiers neufs, naturellement. Mais c'est clair que... on va être sur de la co-conception, production, de la co-consommation de services. Et concernant l'ouvrier qui a besoin de sa voiture pour aller au travail, on va lui apprendre aussi à l'utiliser pour un petit morceau de trajet et de continuer en transport en commun. Voilà.
Merci à tous.
Je me permets, avant que les personnes, je ne sais pas si elles sont arrivées, mais si ça vous intéresse de voir le film qui a été réalisé pour le quartier de la Benoge, qui a été réalisé pour la concertation, je ne sais pas si on peut le passer. Oui ? Bon. Le monsieur de la régie. Parce que je vois pas les... S'il nous laisse 2 minutes, vous nous laissez 2 minutes ou c'est peu... Sinon, c'est pas grave, on le passera pas. Il dure 6 minutes. C'est trop long. Bon, donc je suis désolée, ça sera pour une autre fois.
Au fond de mon sac, j'ai tout vidé, mais tant pis. Hein. Voilà, alors ça, je le prends. Alors, j'ai enlevé l'autre, il n'y en a plus qu'un. J'ai enlevé celui d'hier. Les micros, c'est vous qui les avez. Ah non.
Celui-ci.